Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon collègue Paul Arcand vous a donné l'occasion de vous exprimer sur la frustration que vous pouvez ressentir dans les magasins devant des biens qui vous paraissent pourtant essentiels à la vie, mais que vous ne pouvez acheter. Et cette frustration-là, je pense qu'on la sent dans beaucoup de sphères de la vie en ce moment, de la vie en pandémie. Mais je vous en ai un peu parlé hier, l'incompréhension devant, par exemple, des étagères complètement fermées hein, à votre accès, c'est-à-dire comme si c'était du matériel radioactif, vous pouvez pas l'acheter, mais dans le fond, on pourrait certainement débattre du côté nécessaire de la chose. Et ça, vous avez été très nombreux à réagir à mon statut Facebook là-dessus ce matin parce que, au cours des dernières semaines, depuis qu'on nous a expliqué quels étaient les commerces et quels étaient les biens essentiels, mais surtout les commerces essentiels, parce que les biens, vous allez comprendre qu'on ne nous l'a pas tant expliqué, qu'est-ce que c'était des biens essentiels ou pas. En tout cas, pour les grandes surfaces et les magasins qui peuvent ouvrir avec une porte qui donne vers l'extérieur, c'est pas toujours évident. Mais par exemple, un exemple très, très, très concret, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des pharmacies, de voir, par exemple, le rayon des livres. Il y a toujours des livres qui sont vendus, des livres pour enfants, des jouets, une tétine pour enfants. Vous savez, tous ces petits objets là, pour les soins du bébé, par exemple. Ça, c'est pas jugé essentiel. Il y a des gens qui me disent aussi que des mitaines. Il y a quelqu'un qui m'écrivait ce matin, « Moi, je voudrais acheter des gants pour mes enfants, des bottes d'hiver, pas capable. » C'est sûr qu'on peut toujours tout commander sur Amazon. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de Québécois qui le font. Mais il y a un moment donné, faut tu sais, puis ça peut être une décision qu'on a prise au moment du couvre-feu, mais qu'on peut revoir aujourd'hui si on considère que ça a créé des inéquités. Je pense qu'on en est là. Je vais vous donner l'occasion de nous faire part de, un, votre frustration, si vous en avez, de ne pas être capable d'acheter des biens qui vous paraissent pourtant essentiels. Je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez acheter en ce moment, mais que vous pouvez pas parce qu'il y a une espèce de ruban jaune qui vous interdit, là. Je vous le dis, là. C'est comme, touche pas à ça, interdiction. Et aussi, bon, est-ce que ça nourrit une frustration jusqu'au point où vous allez jusqu'à avoir engueulé quelqu'un qui travaillait dans le magasin? On a entendu le plaidoyer de cette jeune femme, là, respirer par le nez. Je pense qu'elle avait bien raison. Comme Paul le disait, engueuler un travailleur au salaire minimum, là, tu sais, qui en plus prend des risques pour être sur place, alors qu'il pourrait être chez lui ou chez elle, qui vous sert. Puis je pense qu'il y en a qui font leurs efforts, là. C'est stressant d'être au contact de beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens en télétravail, puis il y a peut-être beaucoup de gens qui sont à la maison depuis longtemps, mais dites-vous que tous ceux qui sont considérés comme des travailleurs essentiels, puis ça inclut les gens du commerce du détail ou d'autres, quand ils sont en contact avec d'autres, c'est stressant. Et ça, on l'oublie, ce stress-là, d'avoir quelqu'un qui rentre toujours dans ta bulle. Nous, ici, on peut le vivre même au bureau, là. Puis je suis sûre que si vous êtes dans un bureau, dans une shop, là, dans une industrie où vous côtoyez d'un peu trop proche des collègues, là, vous avez un stress en revenant le soir à la maison. Puis des fois, c'est un stress qu'on prend, qu'on accueille, qu'on accepte parce qu'on n'a pas le choix puis qu'on se dit, mon Dieu, on est content de travailler pareil. Il y en a qui ne travaillent pas depuis des mois. Mais c'est stressant pareil. Fait qu'il y a tout ça à considérer, comme nous le disait Joe Biden hier, un peu de bonté, s'il vous plaît. Ça vaut aussi pour nous ici. On va en discuter ensemble, puis vous me le direz. 514-790-9850, ce que vous auriez aimé, été capable d'acheter en ce moment. Qu'est-ce qui vous manque? Et puis pourquoi, est-ce que vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas l'acheter? Et ça, je suis sûre qu'on va commencer à se faire une petite liste. 514-790-9850. Donc, et de l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Je vais parler au directeur général du Conseil québécois du commerce de détail parce qu'on s'est dit que l'équipe, qui aurait certainement quelque chose à dire là-dessus, puis ils vont peut-être nous clarifier les affaires s'ils comprennent mieux. Stéphane Drouin, bonjour.
Bonjour.
Là, vous êtes un peu pogné avec ça, Monsieur Drouin, parce que, bon, il y a 40 000 commerces de détail au Québec, et puis, bon, depuis... À force, là, la pandémie s'étire, puis là, on le voit, la frustration, l'impatience chez les gens augmente. Mais il y a quelque chose qui est peut-être pas clair dans ce qui est un bien essentiel et ce qui est un bien non essentiel. Quelles sont les directives qu'ont reçues les détaillants?
Bon, à la base, faut se souvenir de l'intention du gouvernement derrière de ça, qui était de s'assurer, quand on a fermé les deux premières semaines, là, fin décembre, début janvier, de s'assurer que les gens restent à la maison le plus possible et qu'il y ait le moins de contacts possible. Donc, de limiter les déplacements en magasin au bien, à ce qui était essentiel. Donc, le gouvernement avait identifié dans les catégories les commerces essentiels, dans le fond, avait ciblé ça sur trois grands axes. Le premier, qui est tout ce qui touche se nourrir, donc l'alimentation. Le deuxième, c'est tout ce qui touche l'hygiène corporelle, les soins personnels. On inclut là-dedans les médicaments et tout ça. Et le troisième était la quincaillerie d'urgence. Vous avez des besoins d'un tuyau qui pète ou d'une toilette qui est brisée, c'est certain qu'on ne vous laissera pas tomber. Donc, à la base, c'était là-dessus. Et c'est assez complexe de faire des listes plus détaillées que ça. Oui, ça serait possible, mais imaginez-vous, il y a dans une quincaillerie, dans une pharmacie moyenne, il y a peut-être 15 000 items, il y a peut-être 1 000 catégories. De faire une liste là de toutes les catégories. Alors, le gouvernement a mis ça de façon plus large et a responsabilisé après les marchands à limiter la vente aux trois grandes catégories que je viens de vous décrire. Fait que pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est certain qu'on vous parlait d'avoir des livres en pharmacie. Bon, mais les livres, présentement, c'est pas un bien essentiel, et ni pour le commerce non essentiel, ni pour la pharmacie. Donc, c'est pas à vendre. Ou est-ce que ça peut créer des zones, des fois, un petit peu plus grises, puis je suis pas un expert dans le cosmétique, là, mais entre un produit cosmétique puis un produit de soins personnels, j'imagine que des fois, la ligne peut être fine et ça peut créer certaines confusions, effectivement, là, dans les magasins.
Mais j'essaie de comprendre la logique. Moi, j'aime toujours un peu le biais que j'essaie d'avoir. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça relève du gros bon sens? Je trouve que c'est une règle dans la vie, le gros bon sens, qui marche souvent. Et là, je me dis, OK, là, tu as le droit de t'acheter, par exemple, une crème pour la peau, mais tu n'as pas le droit de t'acheter... Mettons, un mascara. Quelqu'un m'écrit, là, moi, je suis pas capable de m'acheter un mascara. Vous allez me dire, c'est pas essentiel à ta vie. Bien, ça dépend du monde, là. Puis, sincèrement, la logique des deux, pourquoi l'un, mais pourquoi l'autre? C'est aussi niaiseux que de dire, t'achètes cinq petits pains au magasin, sont taxables. T'en achètes six, sont pas taxables. Ça fait partie des grandes incohérences là, du commerce de détail avec lesquelles on doit composer. Mais en temps de pandémie, il y a quand même des choses qui nous paraissent assez incroyables. Quand vous dites, par exemple, bon, il y a des biens essentiels, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est pas clair. Moi, j'ai parlé à un gérant d'un département de Walmart à Cowansville dans le temps des fêtes, puis qui me disait, parce que je comprenais pas, je voulais des ampoules. Fait que je pouvais pas avoir des ampoules qu'il jugeait décoratives. Il y avait des ampoules normales, mais les ampoules qui avaient une petite forme d'ampoule plus décorative, ça non, parce que ça, c'est pas essentiel. Mais voyons donc, ça reste une ampoule. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ça vient. Puis il m'a dit, écoutez, nous, là, c'est un problème. Ça fait deux semaines qu'on essaie de se creuser la tête à savoir c'est-tu essentiel ou c'est pas essentiel. Fait qu'il y a clairement une frustration aussi de la part sans doute de vos membres, Stéphane Drouin, des commerçants qui doivent dire, coudonc, c'est encore nous qui devons gérer ça. Moi, il m'a dit, j'aurais aimé ça qu'il y ait une liste détaillée, mais on n'en a pas. On l'a demandé au gouvernement, il nous l'a pas donné.
Mais c'est comme je vous dis, dans un sens, puis je vais vous ramener sur une autre frustration qu'on a eue au printemps dernier. C'est certain, je vous dis, dans une épicerie, il y a 30 000 items. Dans un Walmart, il doit y avoir au-delà de 100 000 items. Donc, d'amener des listes, à un moment donné, ça devient tellement difficile à gérer. Mm-hmm. Et ça aurait créé de la frustration quand même. Je vous remets dans votre contexte de client dans un Walmart qui veut des bottes d'hiver. Que les bottes d'hiver soient sur la liste. S'il y a une liste ou pas de liste, si les bottes d'hiver sont exclues, ça va créer de la frustration quand même. Fait que on règle pas plus le problème de ce côté-là.
Mais disons qu'au Québec, au mois de janvier, des bottes d'hiver, c'est comme essentiel?
Bien, il y a deux choses. Il y a un élément important, c'est que la fermeture de deux semaines sur les produits essentiels seulement, c'est une chose. Lorsqu'on étire à six semaines, c'est évident que là, il y a des éléments, il y a des produits non essentiels qui peuvent devenir essentiels. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir la possibilité de faire du ramassage en magasin, parce que la livraison des commandes en ligne peut prendre 5 jours, des fois 10 jours, avec les délais de retard qu'il y a présentement. Donc, la capacité au moins de pouvoir commander puis aller chercher dans la journée même au magasin, ça au moins facilite la capacité d'avoir des produits qui deviennent essentiels. Mais je vous ramène au printemps dernier. Qu'est-ce qu'on décriait le plus dans le marché, autant nos membres et beaucoup de consommateurs, c'est que les grandes surfaces mm-hmm. avaient la capacité de vendre des produits non essentiels alors que le commerce d'en face était fermé.
Tout à fait.
Alors, on a choisi une bataille entre est-ce qu'on préserve nos marchands du Québec, est-ce qu'on les protège, nos marchands québécois, pendant la période de fermeture, parce que ça aurait été facile pour le gouvernement de revenir à la solution de l'an passé, qui est beaucoup plus simple à gérer, de dire, écoutez, on va ouvrir les Walmart, les Costco, toutes les grandes surfaces d'alimentation peuvent vendre des produits non essentiels aussi. Là, vous auriez recréer un désavantage et une injustice face aux commerçants québécois, aux petits comme les grands, et là vous auriez assommé le commerce de détail québécois pour les prochaines années. Donc je pense que c'est un léger désagrément, mais qui va permettre d'un autre côté de préserver notre commerce de détail pour les années à venir.
Moi, je suis loin d'être convaincue. Tout le monde se... Moi, s'il y en a un, je pense, qui fait des affaires d'or en ce moment puis qui doit, comme disent les Anglais, « laughing all the way to the bank », là. C'est-à-dire que lui, il se bidonne en regardant tous les gens du Québec qui magasinent sur son site. C'est M. Bezos, M. Amazon, qui devient chaque jour plus riche grâce à nous. Parce que c'est là que les gens se retrouvent. Si tu peux pas avoir un bien essentiel ou que tu considères essentiel chez toi, moi, c'est ce que les gens m'écrivent, M. Drouin, c'est qu'ils se tournent vers pas forcément de la livraison ou... les gens se disent pas... Moi, je vais voir avec les auditeurs, là. Vous allez me dire, là, si vous êtes allé vous acheter à la porte puis prendre par la porte en arrière, là. Il y a des gens qui me disent qu'ils trouvent ça niaiseux. Il y en a même qui rentrent dans le magasin, mais on leur dit, mais tu peux payer à la caisse, mais tu peux pas partir avec ta marchandise de la caisse. Faut que tu sortes du magasin, tu vas à la porte arrière, puis je vais te le livrer. Vous savez, la fameuse cueillette, là. Fait qu'il y a plein d'inepties comme ça. Mais je pense que les gens se tournent vers le commerce électronique, mais pas forcément de sites québécois. C'est ça qui est malheureux. Alors, est-ce que ça préserve vraiment notre commerce de détail? Pas sûr.
Je dirais, on vient de sortir justement notre baromètre. J'ai pas eu le temps, je l'ai eu ce matin, donc j'ai pas eu le temps de me préparer beaucoup avant notre entrevue. Mais je peux vous dire, je regarde juste dans le temps des fêtes, on avait mesuré au mois de novembre l'intention des gens d'acheter davantage québécois. On sait qu'il y a un mouvement qui s'est mis en place. Et il y a 50% des consommateurs au Québec qui nous disent on a notre baromètre de mois de janvier, là, qui revient sur les achats des fêtes, qui ont acheté davantage de produits québécois dans des détaillants québécois cette année, soit des détaillants de quartier ou des détaillants de proximité. L'autre chose, vous me parlez du commerce en ligne, c'est certain qu'Amazon, c'est un joueur majeur, c'est même pas une question. Par contre, quand on regarde au niveau des achats sur les sites des détaillants québécois, je vous donne un exemple, au niveau des vêtements, il y a 41% des gens qui nous disent qu'ils ont fait un achat en ligne chez un détaillant dans le dernier mois, un détaillant québécois, 40% dans la chaussure, 44% dans les meubles. Donc, c'est des chiffres qu'on n'a jamais vus dans le passé. Fait qu'on le voit qu'il y a un mouvement important, et Amazon, c'est la grosse locomotive, mais quand même, les détaillants québécois peuvent ramasser une partie des ventes en ligne. Mais l'autre chose aussi, quand on parlait tantôt des biens essentiels, des biens non essentiels qui deviennent essentiels, c'est certain que si j'ai besoin d'une paire de bottes d'hiver, je la commanderai pas sur Amazon si j'en ai besoin rapidement. Si j'ai besoin de teinture à cheveux, je la commanderai pas sur Amazon si j'en ai besoin maintenant. Fait que ça donne un avantage, au moins aux détaillants québécois, de pouvoir offrir. Moi, je regardais, là, j'ai mon bureau à la maison, comme plusieurs personnes, j'ai manqué de papier. Bon, ben là, ce week-end, j'ai commandé chez un détaillant québécois près de chez moi, une papeterie. J'ai commandé une caisse de papier. Je suis allé la chercher dans l'heure suivante. J'aurais jamais pu commander ça ailleurs pour la faire livrer. Je l'aurais eu 2 semaines trop tard. Fait que ça l'amène au moins un avantage des gens. Puis il faut que le mouvement d'achat québécois continue et d'encourager les détaillants québécois aussi. Je vous comprends très bien par rapport à ça.
Mais ça, c'est sûr. On va revenir sur votre baromètre. Je trouve ça intéressant puisqu'on l'a en primeur. Stéphane Drouin est directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Il reste avec nous, on va aller à la pause, mais avant, je veux parler à Manon, parce que Manon, bonjour. Vous avez essayé d'acheter une balle de tennis pour votre fille, sous conseil d'ailleurs.
Ma fille, d'un physio, elle a besoin d'une balle de tennis parce qu'elle a un problème à l'épaule.
Ouais.
Impossible de commander, c'est pas essentiel. On est allé chez Mondou. Mondou, il y a rien, je peux acheter des chaussettes pour le chien, je peux acheter des soins de dentition, il n'y a aucune allée qui est fermée. On peut tout acheter chez Mondou pour les chiens. Pourquoi on peut acheter des choses, un manteau d'hiver pour un chien directement au magasin, acheter un produit de dentition directement, un jouet au chien, puis on peut même pas avoir une balle pour un problème médical.
Tellement.
Ça, je peux pas comprendre.
C'est ça.
Il n'y a aucune tablette qui est fermée chez Mondou. Tout est ouvert, on peut tout acheter. Les gâteries, on peut tout acheter.
Oh boy. Mais c'est ça.
J'ai acheté, il y a une deuxième chose. J'ai voulu faire venir des bacs pour serrer mes choses de Noël chez Canadian Tire. Ils m'ont dit que c'était pas essentiel. Ils étaient en spécial. Ils sont pas essentiels. Je peux pas acheter son spécial. J'ai commandé des bacs aussi sur le même site de Canadian Tire. Le lendemain, j'ai commandé ça un dimanche. Le lendemain, j'ai le camion de Canadian Tire de Saint-Eustache qui est lettré en face de chez moi. Je l'ai sur caméra. Ben, j'ai une caméra vidéo chez nous. Ils viennent porter les mêmes bacs qui étaient 8,99 en vente. Je peux pas acheter essentiel. Ils me les vendent 19,99. C'est les mêmes bacs avec la facture qui sort de la caisse que j'ai signée. Que j'ai arrêté en magasin. Ça non plus, je n'ai pas compris. J'ai payé 20$ les bacs au lieu de 8,99$, c'est les mêmes bacs, là. Ça, ils sont pas essentiels parce qu'ils sont en magasin, mais en ligne, j'ai payé 20$, puis il est venu me livrer avec le camion du magasin.
Ouais, ouais. Mais ça, l'idée, c'est que le concept derrière ça, c'est qu'ils voulaient pas que les consommateurs aillent dans les magasins pour limiter les contacts. Donc là, ce que vous me dites, c'est qu'en même temps, vous avez été capable de les avoir parce qu'ils vous les ont livrés, sauf qu'ils en ont profité pour vous mettre ça deux fois plus cher.
Puis pourquoi je peux acheter une balle à mon chien puis pas une balle pour...
Ben c'est ça, surtout. C'est surtout ça. Là,
les mitaines, ouais. On peut pas en avoir nulle part, tout est fermé partout, mais je peux aller acheter un manteau sur un chien puis des mitaines à mon chien va être dehors.
Ouais, c'est ça. Ça fait partie des choses.
Les jouets aussi, là, c'est comme vous dites, la pharmacie, c'est tout est fermé, les jouets, tous les livres. Ben, si je veux un jouet, pas un chien, un chat, on peut aller l'acheter, chez Mondo.
Ouais. Merci, Manon. Puis je pense que toutes nos lignes sont pleines. Je vais vous donner l'occasion de ventiler là-dessus puis de nous faire part de votre frustration par rapport à tous ces biens que vous jugez essentiels, mais qui sont pas considérés comme tels par la grande surface ou le magasin. Il y a Marc, toutefois, qui dit « La pandémie m'a fait réaliser que j'achetais beaucoup trop de cossins inutiles que j'aurais qualifiés d'essentiels il y a à peine un an. » Il dit « Personnellement, la pandémie m'a permis de faire des belles économies. » C'est sûr qu'on peut toujours se poser des questions puis tu sais, se calmer un petit peu le pompon en disant « Ouais, est-ce que c'est vraiment essentiel? » Bon, mais il y a des choses qui le sont. Puis après, comme nous vient de nous le démontrer très clairement Manon, il y a des endroits, comme tout ce qui est animaux, là, c'est vrai, je l'ai vu ça aussi, elle a vraiment raison. Il y a des choses quand même, là, ça dépasse l'entendement. Sincèrement, là, ça dépasse l'entendement. Alors, vous me direz, vous, ce qui vous manque, puis quels sont vos rapports aussi avec ceux qui travaillent dans les magasins. Paul disait, calmez-vous, commencez pas à insulter tout le monde. Je pense que faut se garder ça en tête également. On respire par le nez, ça va bien aller, puis on est fin que tout le monde. 514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde.
Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Si vous posez la question, merci Max. Super bonne toune de Grand Corps Malade. On va peut-être vous la remettre. À tout de suite.
Pas essentiel. Pas essentiel. Après quelques mois.
Alors, je vous demande si vous êtes frustré de ne pas être capable d'acheter des biens qui vous paraissent essentiels. Puis là, vous avez compris, on n'est pas dans le caprice, là. Mais il y a des choses qui sont effectivement considérées non essentielles, donc on peut pas les atteindre. Je ramène souvent l'exemple des livres, et en particulier des livres pour enfants, surtout avec le confinement après 8 heures, le couvre-feu. S'il y a une chose qu'on pourrait dire aux gens en ce moment pour se calmer, pas forcément être toujours rivé sur nos écrans, parce que ça va être un méchant problème aussi, là. Plus tard, on va s'en rendre compte. Déjà, les enfants, on le sait, ont des problèmes de vue de plus en plus. Ça va être des générations à lunettes qui s'en viennent parce qu'on aura tellement juste fait que regarder des écrans bleus. Bref, les livres me paraissent assez essentiels dans la vie, là. Les livres, tout ce qui est culture. Regardez, je sais pas si vous avez vu le spectacle hier soir aux États-Unis. L'arrivée de Joe Biden, ce qui était évident, c'est qu'on avait besoin de culture, on avait besoin de chanteurs, de produits culturels, les livres, entre autres, des livres pour enfants. Il y a des parents là qui m'écrivent qu'ils essaient d'en acheter. Ben, tu peux en commander, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Tu peux pas. Tu vas à la pharmacie acheter une boîte de masques, tu pourrais attraper un livre. Ça dérangerait personne. Tu n'aurais pas plus de risque de contracter le virus ou de mettre quelqu'un en danger. Là. T'es rendu là. Donc, moi, quand j'entends Stéphane Drouin dire un livre, c'est pas un bien essentiel, ça m'a fait mal, Stéphane.
Ben écoutez, je dis pas qu'il est pas essentiel. Par contre, je reviens sur mon principe d'équité. Si les livres se vendent à travers les pharmacies, les grandes surfaces, ben malheureusement, on va faire mal aux libraires qui eux travaillent malheureusement seulement en ligne. Donc,
et voilà.
C'est encore une question d'équité.
Mais Stéphane, peut-être on pourrait poser la question. Est-ce que c'est normal que les librairies soient fermées?
C'est une très bonne question. Et écoutez, dans nos discussions avec le gouvernement, on essaie toujours de voir jusqu'où on peut tirer l'élastique de l'essentiel. Et on nous ramène souvent et toujours sur la santé publique, les décisions qui sont prises en fonction de l'évolution de la situation. Puis il faut comprendre aussi cette dimension-là. On est dans une situation assez exceptionnelle.
Ouais.
On espère que les cas vont continuer de descendre pour que... Puis c'est pour ça que le respect des consignes est important. On est tous socialement responsables de ce qui se passe puis de la fermeture des commerces dans un sens. Donc, on espère que de pouvoir ouvrir les commerces le 8 février qui s'en vient. Et
vous y croyez à ça, cette ouverture le 8 février?
Écoutez, je suis un lucide optimiste de nature, donc je vais vous dire que présentement, je vois les cas descendre, je vois les hospitalisations descendre. Malheureusement, je ne suis pas un expert de santé publique, mais je garde espoir que le 8 février, en tout cas, on pourra avoir une ouverture, si pas complète, au moins partielle des commerces.
Oui. On a Pierre qui nous appelle. Bonjour, Pierre.
Hey, bonjour. Félicitations pour ton émission.
Merci.
Moi, j'ai une frustration accumulée, oui. Des expériences maladroites. Il a neigé il y a à peine une semaine. Mes enfants veulent avoir un toboggan pour glisser, c'est le temps. On nous dit, faites de l'activité extérieure. Canadian Tire, c'est pas un service essentiel quand je me suis déplacé. Par contre, j'ai vu ça d'un autre côté positif. Je suis allé chez Canadian Tire, puis à un moment donné, on me dit, tu peux l'acheter en ligne ou tu peux téléphoner puis prendre ta commande à la cueillette, à l'auto.
Mm-hmm.
Écoute, j'ai pas été acheter sur Amazon parce que je veux plus acheter chez Amazon. Je veux encourager le produit québécois à l'achat local.
Ouais.
Pourquoi? Ma frustration, elle s'est réglée en deux temps, trois mouvements. Pourquoi ne pas promouvoir la cueillette à l'auto au niveau de tout ce qui est local, tout ce qui est produit au magasin purement québécois? Arrêtons de parler d'Amazon. Arrêtons de donner de la publicité gratuitement à Amazon.
Mm-hmm.
Encourageons la cueillette. Premièrement. Et deuxièmement, le mot essentiel, on va le mettre de côté parce que là, on le met à toutes les sauces. Est-ce que le gouvernement pourrait arrêter d'utiliser ce mot-là?
Mm-hmm.
Je comprends. Le fait de dire un besoin essentiel, c'est qu'on va avoir moins de gens dans les commerces.
Ouais.
Mais favorisons la cueillette. Favorisons la cueillette de tous les biens. Moi, je crois à un plan B. Si jamais, je ne vais pas être négatif, je vais être positif en disant que le 8 février, on va reprendre la vie un peu normale. Mais si jamais le plan B du 8 février ne fonctionne pas, est-ce qu'on pourrait se dire, hey, ouvrez vos commerces, l'économie, notre besoin, puis d'encourager la cueillette à l'auto, d'encourager tout ce mécanisme-là de Québécois, mais s'il vous plaît, les médias, arrêtez de parler d'Amazon. Vous leur donnez de la publicité gratuitement. On n'en a pas besoin. On peut-tu être créatif? Et c'est la seule chose que je pense que cette pandémie-là peut nous donner de positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer comme Québécois?
Merci ça, beaucoup. Là, ben, peut-être dire à ce moment-là, rouvrir des commerces. Là, peut-être rouvrir des commerces québécois. Merci. Tu sais, je pense que c'est pas... quand on arrive à dire les médias, arrêtez de leur faire la publicité gratuite, c'est pas ça qu'on fait. Quand même, je le dirais pas, ça empêcherait pas les Québécois d'acheter sur Amazon. C'est ça que je lis des commentaires des gens qui m'écrivent. Les gens sont bien tannés. Puis y en a là qui ont reçu leur cadeau de Noël après Noël parce qu'ils ont voulu encourager des bannières d'ici. Mais on vient d'allumer à cause de la pandémie. Puis ça, je pense qu'il faut le dire, M. Drouin, c'est bien beau le commerce commandé là, sur Internet. Vous l'avez déjà reconnu vous-même. Le Québec était en arrière par rapport au commerce électronique. Moi, quand j'ai fait mon MBA, j'ai fait une spécialisation en commerce électronique, puis je peux vous dire, c'était il y a quelques années déjà, puis déjà, on savait que au Québec, on était très en retard. C'est comme si le monde y croyait pas à ça, ou il y avait pas l'argent, ou il investissait pas là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, ben on paye pour ça. On paye pour ce retard qui fait que ça privilégie Amazon. Les gens me l'écrivent. J'ai commandé finalement une dame qui me dit j'ai voulu aller à Mont-Jean Coutu pour me prendre la teinture à cheveux. C'était pas essentiel. Je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai reçu deux jours après. C'est ça que les gens font, là.
Ben, vous savez, Amazon aussi, il faut pas perdre de vue que des commerçants québécois peuvent vendre aussi via une plateforme comme Amazon. Alors, quand les consommateurs vont sur Amazon, c'est un détaillant qui est présent, qui fait partie de l'environnement de compétition pour les détaillants québécois, mais il y a des détaillants québécois qui sont aussi, qui vendent à travers la plateforme. Alors, les consommateurs peuvent même acheter local à travers Amazon dans la mesure où ils font l'effort de regarder d'où vient le produit, parce qu'Amazon ne livre pas seulement de leur entrepôt. Ils ont des ententes aussi avec des commerçants qui eux, vendent à travers cette plateforme-là. Mais bien entendu, comme l'exprimait votre auditeur précédent, l'idée de la cueillette, c'est vraiment exactement le besoin. La plupart des commerçants peuvent vous fournir dans la journée même l'item dont vous avez besoin et même dans l'heure suivante après une commande en ligne. Donc entre puis j'entendais des consommateurs dernièrement dans un reportage télé qui disaient j'ai trouvé ça même plus efficace que de me déplacer puis d'avoir à faire le tour du magasin. Fait que donc il y a certains avantages et je pense que c'est dans l'intention de continuer d'acheter québécois, ben tous les détaillants québécois pour la plupart vendent en ligne vont offrir la cueillette en magasin, que ce soit les petits détaillants de rue. Il y en a même qui l'offrent au téléphone. Donc, il y a des
moyens. Mais je vais vous donner un exemple, Stéphane. Il y a quelqu'un qui m'écrit, là, ses enfants grandissent, elle a besoin de vêtements, ça grandit vite, hein, surtout plus ils sont petits, plus c'est bon. Elle a besoin de vêtements, de bottes, de choses essentielles. Elle n'est pas capable, puis elle dit, c'est bien beau commander en ligne, mais je ne passerai pas ma vie à les rapporter non plus, parce que ça ne fait pas toujours. S'il y a bien quelque chose qu'on veut faire aussi, c'est pouvoir essayer dans le magasin. Parce qu'à un moment donné, vous dites, il y a ça comme problème, puis la conséquence de ça, c'est qu'à force de tout acheter en ligne, il y a des magasins qui ne vont jamais s'en remettre parce que le monde, ils vont avoir pris l'habitude d'acheter en ligne. Fait que, c'est comme une espèce d'équilibre à avoir qui n'est pas toujours évident. Mais sur la question de ces biens là qu'il faut qu'on essaye, par exemple, quand c'est des chaussures, des vêtements, il me semble qu'il y a une logique. C'est bien beau de dire je te le commande puis je vais prendre le sac en cueillette là, mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours idéal.
Non, puis la gestion des retours pour les commerçants.
Mon Dieu, c'est épouvantable les retours.
C'est un fardeau, c'est un élément très très problématique pour les commerçants. C'est pour ça que on est dans une situation temporaire, là, c'était temporaire 2 semaines, là, ça va être temporaire 6 semaines. C'est ça qu'on espère beaucoup qu'à partir, autant pour le bien des consommateurs, qui là, il y a des besoins essentiels, comme vous parlez dans le vêtement, et des catégories qui sont plus difficiles à acheter, là, lorsqu'il y a des grandeurs et tout ça, que ça revienne le plus vite possible et qu'au mois de février, là, on soit capable de rouvrir les commerces, effectivement. En attendant, ben, comme depuis le début du mois de mars, depuis la mi-mars, on s'accommode, avec les différentes contraintes lesquelles on vit de tous les jours, mais je vous avoue que ça crée des situations problématiques, effectivement.
Puis vous disiez tout à l'heure, vous parliez de votre baromètre. Je voudrais juste que vous rappeliez aux gens là, qui ont peut-être manqué ça. Là. Vous disiez 50 % donc plus de trafic sur les sites Internet des commerçants québécois. C'est ça que vous disiez, en gros?
Dans le fond, de façon générale, là, que ce soit en ligne ou en magasin, les Québécois ont acheté environ 50 % de leurs achats là, dans les commerces et les bannières québécois, donc les magasins de proximité ou nos bannières québécoises. Et pour le commerce en ligne spécifiquement, on voit là, autour de 40-50% des gens, dépendamment des catégories de produits, ont fait des achats en ligne sur des sites Internet de détaillants québécois.
Bon.
Donc, on le voit qu'il y a quand même au moins... Là,
mais ça, on dit tant mieux, bravo, on continue.
Oui, hein? Oui, il faut. Alors, on peut monter ça, il n'y a pas de problème. Monter à 60%, il n'y a pas de problème, on va les prendre.
Mais en même temps, puis on va poursuivre après la pause avec vous, vous restez encore un petit peu. François Roberge, avec qui j'ai beaucoup parlé là, au cours de l'année dernière, qui est patron de La Vie en rose et de Bikini Village, il disait, c'est bien beau le commerce là, en ligne, puis oui, c'est important. Mais en temps de pandémie, lui, il est fermé. Là. On l'a encore appelé ce matin. Ses magasins sont fermés. Il dit, c'est bien beau le commerce en ligne, mais Bikini Village, là, en ce moment, on s'entend que tu sais, vendre des bikinis là, alors que le monde peut aller nulle part, c'est pas idéal. Puis même La Vie en rose, sur leur site, que ça soit ça ou d'autres bannières québécoises, c'est pas ce que c'était non plus avant. Là. Donc, c'est pas simple.
Vous avez 150-200 magasins, c'est certain, même si vos ventes en ligne explosent, ça ne compensera jamais pour l'ensemble des coûts et des ventes que vous faites dans un réseau de telle importance.
Voilà. On revient tout de suite après la pause. Nos numéros 514-790-9850, 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez des frustrations de ne pas être capable d'acheter des biens qui vous paraissent pourtant essentiels. À tout de suite. Il y a Marie qui dit qu'elle a dû se retourner vers du stock usagé. Là. Elle achète, entre autres, des vêtements pour ses enfants usagés. Elle dit, d'habitude, moi, j'achète du neuf. Mais là, j'avais besoin d'un habit de neige là, pour les enfants qui grandissent. Elle dit, d'habitude, j'achète pas dans le commerce de proximité. Puis là, j'irai pas plus non plus. Elle dit, on protège pas tant le commerce de détail, finalement, avec toutes ces décisions. Ça fait juste augmenter nos frustrations. Elle dit, moi, j'avais réussi à trouver mon bonheur malgré tout avec le contexte actuel, mais là, je peux juste pas payer plus cher, ça, c'est sûr. Et il y a des affaires que je peux pas contrôler, comme le fait que mes enfants grandissent, fait que je m'arrange comme je peux. Mais elle, ce qu'elle explique dans le fond, Marie, c'est que ça l'encourage pas à acheter forcément plus québécois. Il y a une question de bourse aussi. Beaucoup de gens me disent ça. Hein. Commerce québécois, oui, on veut les encourager, mais au niveau des frais de livraison, c'est plus cher. Des gens qui me disent, pour les cadeaux que j'ai fait à Noël, pour un cadeau de 20$, c'est pas vrai que je vais payer 10$ ou 15$ de livraison. Ça a été un problème pour certaines personnes. On a avec nous Yannick Marcil, il est économiste et il a pu lui-même commenter sur ce qu'il considère des absurdités dans le choix des produits considérés essentiels, ceux qu'on peut acheter ou non dans les commerces. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Tu avais mis un statut d'ailleurs sur tes réseaux sociaux là-dessus. Explique-nous un peu ce dont tu as été témoin.
Ben, je pense que comme tout le monde, d'ailleurs toi-même tu l'as fait ce matin, je pense.
Oui, ça fait beaucoup réagir.
Avec les livres là qui sont interdits de vente. Deux petites anecdotes, mais qui peuvent avoir quand même des conséquences importantes, comme ce que tu viens de raconter. J'étais à la pharmacie, un homme essaie d'acheter une gourde, tu sais, une bouteille réutilisable pour le jus. On lui refuse parce que c'est pas un bien essentiel. Lui, il dit, ben oui, mais là, c'est pour mon garçon, il a brisé la sienne, il en a besoin pour aller à l'école. Ça a été interminable, puis tout le monde a été très gentil, très poli entre eux, là. C'était pas un problème, là, c'était pas une chicane, mais tu te rends compte que cet homme-là est resté dans le commerce pendant 10 fois plus de temps, ce qu'on veut éviter, que ce qu'il aurait dû faire. Une autre amie a voulu acheter des piles pour son appareil auditif, elle est malentendante. On lui a refusé. Moi, 2 jours après, j'achète des piles à une pharmacie, des piles AA bien ordinaires là, pour des gadgets. C'est tellement aberrant et ça mène, comme tu dis, beaucoup de frustration, mais plus que ça, c'est de la pression sur les commerçants, sur les consommateurs qui n'a pas raison d'être.
Oui, tout à fait. Puis, tu vois, on le voit, là, entre autres sur les livres, ça a fait beaucoup réagir sur mon statut ce matin sur mon Facebook. Puis il y a des gens qui le disent. Il y en a beaucoup qui ont été à commander des livres sur Amazon parce que quand ils ont vérifié, par exemple, il y a un site où vous pouvez aller sur www.leslibraires.ca. Il y a des gens, il y a Sabrina, entre autres, qui m'écrit, puis elle dit tous les livres sont disponibles ici, le problème. Puis là, les gens ont commenté après en disant oui, mais les délais de livraison sont pas bons. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a pris 9 jours pour avoir des livres. Il y a quelqu'un qui m'écrit, on est donc capricieux, c'est-tu grave d'avoir su ces cadeaux de Noël après Noël? Ben, tu sais, ça peut être considéré peut-être pas grave, là, c'est sûr qu'il y a plus grave dans la vie, mais disons que...
Oui, bien sûr.
S'entend que normalement, t'aimerais ça avoir... C'est ça, la frustration. C'est pour ça que t'arrives en magasin, puis tu vois la vendeuse, puis tu te dis, ben là, tu sais, ou tu vois l'associé dans la quincaillerie, tu sais, petit monsieur là, qui essaye de se démener, déjà qu'il n'y a pas assez de monde pour servir tout le monde, puis qui sait même pas lui-même qu'est-ce qui est vendable, pas vendable. T'sais, les gens, ils ont de la misère à répondre comme il faut aux consommateurs. Ils savent pas. Ils savent pas quoi dire.
C'est ça qui est terrible parce que le gouvernement a pelleté dans la cour des commerces, des commerçants, ces décisions-là qui sont pas légères parfois, là, tu sais, comme tu parlais là, de l'habit de neige, la mitaine de l'enfant, peu importe. Là, où je reviens à la pile pour l'appareil auditif de mon ami. Là, c'est quand même pas un détail, là, c'est pas un luxe. Là. Et le problème aussi, c'est que ça crée plein de distorsions, c'est-à-dire que présentement, là, avec les nouvelles règles, on peut acheter en bordure de magasin, n'est-ce pas? Donc, tu commences sur le web, tu vas chercher en bordure d'un magasin. Ça prend quoi pour faire ça? Ça prend un char, puis ça prend une carte de crédit. Est-ce que c'est pas tout le monde qui a ça? C'est simple de même. C'est pas la fin du monde, mais si tu l'as pas... Moi, personnellement, j'ai pas été vraiment contraint par ces règles-là, mais il y a un paquet de monde pour qui c'est juste pas possible de faire ces achats-là qui sont pas... Encore une fois, c'est pas du caviar mais du champagne. Là,
non, effectivement. Puis oui, c'est vrai, tu sais, on se conforme, on attend que ça finisse, on a hâte que le 8 février arrive, mais puis on prend notre mal en patience pour la plupart des choses. Mais c'est vrai qu'il y a des biens que tu dis, bon, c'est pas essentiel, mais est-ce qu'on pourrait pas se poser des questions si ça, tu sais, des ustensiles de cuisine, des produits de soins, même des, tu sais, je voyais hier. Des chandelles, tu sais, tu parlais des gourdes. Les gourdes, pareil. Tu sais, hier, par exemple, dans un Provigo Loblaws, là, dans le rayon des fruits et légumes, il y avait toute une station là, de gobelets puis de gourdes pour emporter. Mais ça, c'était barré, là. Tu pouvais pas y accéder. Tu dis, ah, oh, tu sais, OK, mais là, moi, je suis quand même là. Mais qu'est-ce que ça dérangerait que je prenne la gourde en même temps? Là, je viens de prendre une salade, je viens d'acheter des tomates, je pogne la gourde en même temps, je vais aller à la même caisse. C'est juste un item de plus. Mais je comprends tout le débat sur le fait qu'il y avait cette inéquité dont qu'on a beaucoup critiqué. Tu sais, le fait que, par exemple, tu pouvais aller chez Walmart, tu pouvais tout trouver, alors que oui, le petit détaillant, il était fermé. C'est ça le problème. C'est qu'on a fermé les petits puis on a laissé les gros ouverts.
Exact. En termes de structure économique, la philosophie de base est, je pense qu'elle est légitime. Mais dans l'application, ça marche juste pas. Parce que, comme tu dis, tu passes de toute façon du temps dans le commerce. Donc, à prendre une gourde ou pas en prendre, mais tu risques de propager le virus autant. Et d'autre part, mais qu'est-ce que font les gens qui ont les moyens de le faire ou la capacité, pas les moyens financiers, pas d'être riche, là, mais juste avoir la possibilité de le faire? Ben, tu vas chez Amazon, puis tough luck pour les commerces québécois. Ouais.
On a Marc-André qui nous appelle. Marc-André, vous avez une entreprise, c'est bien ça?
Oui, exact. J'ai une entreprise dans l'agroalimentaire.
Ouais.
Et puis, j'avais besoin de plaques de cuisson pour ma production. Donc, là, je vais sur un site d'un commerçant québécois, Doyon des Prés, et ils les ont. Sauf que là, ça me dit que c'est 5 jours ouvrables, 5 jours, dans le fond, pour la commande en magasin pour du stock qui est déjà dans le magasin. Là, moi, j'en avais besoin maintenant. Je n'étais pas pour attendre 5 jours. Fait que là, je me suis souvenu qu'au Costco Entreprise, à Saint-Hubert, qui est dédié pour les entreprises, pas le Costco régulier. Et j'appelle pour savoir avant de me rendre. On me dit non, les plaques de cuisson, c'est pas jugé essentiel, vous pouvez pas utiliser ça. Puis là, je fais OK, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai appelé, il a fallu que je fasse des pieds et des mains, j'ai appelé au siège social de Doyon des Prés, m'ont transféré à quelqu'un d'autre à une succursale de Sherbrooke, qui a appelé en magasin à Granby pour savoir si la personne pouvait m'y donner maintenant. Tellement j'ai réussi, puis quand je suis arrivé à magasin, la personne elle me dit « Ah ouais, je savais pas que c'était aussi compliqué. » Moi, je passe mes journées, j'attends que les commandes rentrent. C'est super compliqué pour quelque chose d'assez basique. Fait que j'avais un autre exemple assez étonnant aussi. J'avais fait une journée de production de 14 heures justement cette semaine. J'ai fini à 11h30 le soir, puis je m'étais pas prévu de souper. Fait que là, en sortant, je dis « Ok, je vais arrêter dans un McDonald's ou un AW pour me chercher quelque chose à manger. » Et puis là, j'arrive en face du McDonald's. Il est ouvert, il y a quelqu'un en dedans, mais la commande à l'auto est barrée, mais ça marque dessus que je peux le commander par DoorDash. Puis là, j'ai eu en tête, je me suis dit, tous ceux qui travaillent de nuit, qui font de la livraison, les camionneurs, tu sais, ils font quoi?
Oui, tout à fait. Merci, Marc-André. Merci bien. Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Après tous ces commentaires, vous voyez qu'il y a quand même une frustration réelle. Je pense pas que ça tient du caprice. Je pense que les gens sont capables de dire, bon, ben, regardez, il y a quelque chose qui marche pas. C'est sûr qu'il n'y a jamais de système parfait, mais est-ce qu'il serait pas le temps de corriger peut-être certaines iniquités, là?
Si je comprends très bien, j'entends et je la vis moi-même, cette frustration-là, comme consommateur, et donc je suis très capable de comprendre la situation. Je pense qu'aussi, on commence à avoir un épuisement, je pense, ouais. On est tout un petit peu à bout, fait qu'on a des fois des sensibilités sur chacun sur certaines choses, et le magasinage en fait partie. On travaille très fort avec le gouvernement, comme je vous dis, nous, régulièrement, pour essayer de faire bouger les choses, mais dans le contexte actuel, le gouvernement tient vraiment à ce que les cas diminuent, puis pour l'instant, ne sont pas prêts, la santé publique n'est pas prête à bouger sur le décret qui a été mis en place.
Là, vous leur avez demandé, leur avez posé la question, c'est-tu possible de slacker un peu, puis ils vous ont dit non?
Oui, on a demandé certaines catégories de produits là, pour justement, entre autres quelques catégories qui ont été mentionnées aujourd'hui dans certains commerces essentiels, pour ouvrir un petit peu plus. Pour l'instant, on nous a mentionné non. C'est au jour le jour, donc on garde contact avec eux, on essaie de bouger ça. On suit ça au niveau des cas, on voit que ça baisse, fait que on va avoir une relance certainement dans les prochains jours là, pour voir si on peut ramener certaines choses.
Quelles sont les catégories de produits que vous auriez voulu qu'ils soient libérés?
Ben, je vous donne l'exemple en pharmacie, tu sais, vous donnez l'exemple des cosmétiques, je pense que c'est un secteur qui, effectivement, là, entre une puis là, je suis pas un expert encore là, mais entre une crème puis un peu un soin corporel, des fois, la ligne est très fine. On parle de teinture à cheveux que je suis obligé de commander en ligne, alors que j'achète mon tube de Pantadan. À un moment donné, ça peut devenir, c'est pas essentiel, mais ça peut le devenir. Donc, est-ce que on pourrait ouvrir sur ces éléments-là? L'idée, c'est que c'est des catégories qui, en même temps, ne créent pas d'iniquité. Si je vends de la teinture à cheveux chez une bannière comme Jean Coutu, par exemple, ça m'empêche pas, ça nuit pas à un autre commerçant dans une autre catégorie. Alors que si je vends des livres dans un commerce non essentiel comme dans un Walmart, ben là, c'est certain que je vais lire à la petite librairie. Fait qu'on essaie de jouer dans les catégories là, qui sont peut-être qui deviennent un petit peu plus essentielles. Et bien entendu, ben, on croise les doigts que le 8 février, là, tout va rouvrir dans le meilleur des mondes.
Merci beaucoup, Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. À tout de suite, tout le monde. On a Jean-François qui est avec nous, qui est commis dans le domaine de la construction, puis qui voit lui aussi des inepties dans certains magasins, essentiels, pas essentiels. Bonjour Jean-François.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute?
Oui, écoute, je suis allé chez Rona, puis là je me promenais dans les allées, là. Puis à un moment donné, je passe devant les poignées de porte là, de maison, puis... là, c'est comme, tu sais, t'as des poignées de porte bien ordinaires, mais eux autres, tu peux pas les acheter. Les ceux à 200-300$, par exemple, eux autres, tu peux les acheter. Tu sais, c'est comme ça, ni queue ni tête. Tu sais, il y a bien, comme le département de peinture, il est fermé. Tu sais, chez Rona. Tu vois, chez Patrick Morin, là, tout est ouvert, là. La plupart des affaires, c'est ouvert, là, tu sais. Fait que c'est comme bizarre, là, tu sais.
Ouais.
Puis, je voulais parler aussi de la méchanceté, parce que ça, là, c'est bien méchant. Ma fille est secrétaire dans un hôpital, OK? Puis là, il y a un monsieur qui y va, il a le cancer, puis il s'en va, puis il se fait rendez-vous avec son médecin. Mais là, son médecin n'est pas là. Fait que le monsieur, il dit, ben c'est ça, il dit, je vais m'en retourner, puis il dit, si je meurs, ben ce sera de ta faute.
Ah, ben oui, les petits commentaires acides là, qu'on aime bien lancer, là, ouais.
Écoute, ça n'a comme pas d'allure, là, ouais. Tu sais, dire ça, là. Fait que ma fille, écoute, elle est tellement sensible, elle venait les yeux pleins d'eau, là, tu sais, elle dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur, là, tu sais.
Je suis désolée,
ben
ouais,
votre médecin n'est pas là.
Ouais. Et c'est surtout aussi le ton, parfois, qui est utilisé. Tu sais, il y a des gens qui ont tendance à être très familiers avec des commis dans les magasins ou des vendeurs ou des caissiers, caissières, en les tutoyant. Moi, ça me choque. Puis souvent, au Québec, je trouve qu'on a cette façon-là de dire, quand tu veux montrer que tu n'es pas content puis que tu es à la veille de donner un char de ce que vous voulez à la personne en face de toi, tu le tutoies, tu dis, hey, c'est pas vrai que tu vas me faire ça puis que tu vas m'empêcher de vivre. Puis... c'est vraiment violent, je trouve. Je trouve que c'est l'agression verbale, là, tu sais. On tutoie pas, on garde son respect, puis on se calme les petits nerfs, tu sais.
C'est ça, puis en plus d'être ça, mais tu sais, moi, je vais dans un centre d'achat, là, puis au lieu d'engueuler les caissières, là, ben, tu sais, quand tu passes, tu lui dis, ben, merci d'être là pour nous autres.
Exact. T'sais. Mon Dieu, vous avez tellement raison, Jean-François. Oui. Faut les remercier parce que, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui prennent des risques à y aller. Et il y en a d'ailleurs qui ont des proches, qui ont des maladies auto-immunes, qui vont quand même travailler. Puis ça vaut pour les gens qui sont évidemment, si tu commences à engueuler les gens qui sont à l'hôpital, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là. Mais je pense qu'en général, puis je pense que Yannick Marcel, on va conclure là-dessus. Yannick, je pense qu'il faudrait tous aussi respirer à un moment donné, puis essayer de penser, de se mettre à la place de la personne qu'on s'apprête à engueuler.
Ben absolument, parce que ça peut être nous-mêmes, hein. Et je pense que le message aussi, c'est de se rendre compte, là, c'est l'économiste qui parle, c'est que c'est pas juste des cas anecdotiques et personnels, c'est que toute la société, l'économie en pâtit présentement. Les entreprises tombent comme des mouches, là. Il faut se rendre compte de ça puis se solidariser un petit peu parce que ça fait un an que ça dure, là, puis ça n'a pas l'air d'être terminé demain matin, là.
Ouais. Et là, on a en tête la date du 8 février. Alors, Yannick, on va souhaiter effectivement que les cas baissent et que le 8 février, on puisse rouvrir, permettre à l'industrie du détail, à tous ces commerçants, là, de rouvrir leurs portes. Toujours en respect des règles, on le fera, bien sûr, hein, Yannick, mais au moins que ça puisse reprendre. Merci beaucoup, Yannick Marcel est économiste. Il participait à notre émission. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va parler un peu d'Alzheimer. C'est le mois de janvier et c'est sûr que la pandémie a fait son effet. À tout de suite, tout le monde.